Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Noi discendiamo da una ininterrotta catena di assassini, il cui amore per uccidere era nel loro sangue, come forse è nel nostro.
Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale thriller. Nous parlerons de Door et Door to Tokyo Diary, deux films de Banmei Takahashi disponibles chez Carlotta Film. Nous évoquerons également Les Chambres Rouges de Pascal Plante, ça c'est disponible chez ESC. Nous ferons un retour sur la trilogie du vice, à savoir L'étrange vice de Madame Ward, Toutes les couleurs du vice et Ton vice est une chambre close, dont Moi seul est la clé, mon titre préféré de film de tous les temps, hein, ça je crois que je peux le dire. Et ça c'est disponible chez Artus Film, ce sont trois Gialli ou Giallo avec un S si vous préférez, signé Sergio Martino. Et bah, nous discuterons de cette trilogie du vice aussi avec Emmanuel Legagne, hein, qui est auteur du livret de 96 pages, Les vices cachés de Sergio Martino. Enfin, il est plus exactement co-auteur puisqu'il il est aidé par Sébastien Guéraud et David Perrault pour accomplir cette tâche. Alors, l'équipe de Culture Prohibée remercie Juliette Béguet, Lucie Mottier, Kevin Boissezon et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur theextasyoffilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr, et chez tous les bons libraires, bien évidemment. À mes côtés pour causer thriller, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oublié, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech, disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, l'hirsute Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef. Bonjour Thomas, j'ai failli en perdre la voix quand je t'ai dit bonjour, t'as entendu, c'est incroyable, tu me fais un effet bœuf.
Bah je sais, je suis très impressionnant. Donc bonjour Jérôme, bonjour Damien et bien évidemment bonjour à toutes.
Nous débutons cette émission en allant flâner du côté de chez Carlotta Film, hein, qui sort dans la même édition, donc Door et Door 2, deux films de Takahashi Banmei. Alors ce sont des films japonais, hein, le premier est un pur thriller, le deuxième est plus une sorte de drame érotique. On va débattre de tout ça. Bon, le deuxième a un petit côté thriller, mais très très infime, quoi. Voilà. Le premier a longtemps été difficile à voir, donc on est très content de pouvoir aujourd'hui les voir dans de très bonnes conditions parce que les copies sont très belles. Et bah, l'histoire est assez simple. Alors à signaler, moi j'espère que Carlotta va sortir le troisième parce que j'ai jamais vu, hein, qui est un film de Kiyoshi Kurosawa. Donc c'est quand même ça suscite l'intérêt parce que c'est quand même un très grand metteur en scène, Kiyoshi Kurosawa. Alors le premier film est assez simple. Mais assez génial, hein, dans son idée, parce qu'en fin de compte, on est en 88. Alors c'est dire que la société japonaise devait être un peu en avance, elle ressemblait un peu à celle qu'on a aujourd'hui, nous, en France, parce que c'est un film sur le harcèlement téléphonique au départ. C'est-à-dire que c'est une femme dont le mari travaille beaucoup, ils ont un enfant, ils ont un fils, hein, tous les deux, et elle passe la majeure partie de son temps enfermée dans son appartement ou à faire des allers-retours pour aller déposer son fils à l'école ou son fils qui va faire des activités, comme jouer au baseball, par exemple, sport très très populaire au Japon. Et puis elle reçoit beaucoup de coups de fil, et puis aussi elle est beaucoup dérangée à l'interphone. Voilà, et c'est une sorte de thriller domestique, en fait, avec cette femme qui va petit à petit prendre peur jusqu'à temps qu'il y a un homme qui sonne à sa porte, et puis qu'elle va y conduire. Et en fin de compte, cet homme... peut-être est-il un psychopathe, peut-être a-t-il envie, c'est le sujet, de la prendre de force, elle va devoir se battre contre lui, elle va devoir... Et le film, en fait, va devenir là, une sorte de thriller domestique, bien avant que ce soit à la mode. Hein. Et ma foi, mon cher Damien, moi je trouve que c'est un film qui m'a bluffé, c'est un film d'un grand suspense, d'une grande maîtrise dans la mise en scène, malgré un budget qu'on devine étriqué.
Je trouve le film génial. De base, il prend un peu son temps pour poser le quotidien, finalement, de cette femme au foyer, poser son quotidien entre, justement, emmener son enfant à l'école, puis faire le ménage, rejeter des appels téléphoniques de plusieurs démarcheurs et repousser les personnes qui arrivent à la porte. Il y a toujours, au tout début, il y a quelques plans un peu étranges qui sont mis en avant, notamment le fait qu'elle aille jeter les poubelles et quand elle revient, les poubelles sont remontées. Donc, il commence à poser des éléments au fur et à mesure... étrange, et elle a ce truc de lorsqu'elle est chez elle, elle montre une angoisse à tout ce qui est lié à l'extérieur, que ce soit les appels téléphoniques ou bien les personnes qui viennent frapper à la porte, limite comme si elle était agoraphobe, mais vu qu'on la voit sortir, c'est pas le cas. Et en effet, elle va tomber sur un démarcheur qui va être en train de faire son métier en soi, essayer de lui vendre quelque chose, sauf que d'habitude, elle laisse la porte bien fermée. Cette fois, elle va être laissée légèrement entrouverte. Il va y passer la main. Dans un mouvement panique, elle va la refermer. Et à ce moment-là, va commencer l'enfer de l'harcèlement pour elle. Alors, c'est un film qui va utiliser des plans, beaucoup de plans qui sont super bien. En tout cas, que j'aime énormément. Il y a un plan qui, dit comme ça, va être ridicule. Mais il y a un plan sur la poignée de porte, la première fois qu'il essaye de l'ouvrir. Ou à plusieurs reprises, au tout début, on voit quelqu'un qui essaye d'ouvrir la porte, on ne sait pas trop qui. Et ensuite, on voit que ça force bien et ça crée toute l'inquiétude de qui est derrière, vu qu'on ne voit pas la personne, qu'est-ce qu'elle peut bien lui vouloir. Et il réitère ce talent qu'il a sur le plan, tout à la fin, avec cette maison un peu limbiratique, filmée de haut lors d'une course-poursuite. C'est un film qui est presque un huis clos, sans l'être totalement, et qui aborde un peu ce que tu dis, Jérôme, c'est-à-dire qu'on est à la frontière du home invasion, parce que lui essaye de rentrer littéralement chez elle et ensuite en elle, même si ça manque de classe, c'est l'idée. Et c'est un personnage qui nous est présenté, en tout cas la femme, avec un personnage qui est une psyché assez fragile, peut-être liée à une autre expérience qu'elle a eue. C'est ce qu'on peut se douter de ça. À un moment, elle reçoit un appel téléphonique où l'harceleur est à côté d'elle et c'est un autre harceleur au téléphone. On peut se demander si c'est pas la première fois que ça lui arrive. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'harceleur, en fait, la réduit en fait juste à son corps, vu qu'il la désire. Il la désire plus que raison. Je me demande aussi, avec la fin du film et notamment une partie de ralenti. Notamment la scène avec le gosse tout à la fin qui tient un bat de baseball, s'il n'y a pas un commentaire involontaire sur un monde patriarcal, mais ça, ce serait vraiment tiré sur ce que le film voudrait dire, et je ne veux pas faire ça.
Damien, moi je vais aller plus loin que toi, ce fil n'est pas ténu, ce fil est bien tendu pour moi entre les deux films, c'est vraiment la thématique développée pour moi, cette société patriarcale très oppressante, très violente, où effectivement, il n'y a pas de... Parce que même son fils n'est pas présenté sous un bon jour. La gente masculine n'est pas présentée sous un bon jour. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui fait le lien avec la deuxième porte, j'ai envie de dire, deux, n'est-ce pas, mon cher Thomas?
Oui, pour moi, les deux films sont très cohérents, même s'ils ne parlent pas du tout de la même chose. Enfin, si, ils parlent de la même chose. Pour moi, ce sont deux portraits de femmes dans la société japonaise de la fin des années 80, début des années 90. Effectivement, il y a un discours sur le patriarcat, cet homme qui harcèle cette jeune femme, qui est une femme au foyer, donc c'est la maman qui est une femme au foyer. Cet homme est évidemment frustré sexuellement, c'est dit dans le film. Hein. Et le deuxième, pour moi, c'est la putain. Voilà, il y a la maman et la putain. C'est vraiment un vrai diptyque. Parce que le deuxième présente, c'est un autre portrait de femme. Pour moi, tous les deux sont des portraits de femmes. Hein. C'est un autre portrait de femme. C'est une jeune femme qui est escorte. Voilà, qui est escorte et qui, on la voit rencontrer des hommes pour des relations tarifées. Alors, elle rencontre un homme assez étrange, très cultivé, très, très propre sur lui. Là, ça me fait un peu penser, on peut éventuellement voir une relation comme dans 9 semaines et demi d'Adrian Lyne. Et aussi, on la voit rencontrer d'autres hommes, on la voit évolue avec ses amis. Parfois, le film, il est entre la comédie, le drame. Et il y a une petite poussée vers l'horreur à un moment. Hein. Et moi, je trouve ce film... je préfère le deuxième au premier, même s'il y a plus de maîtrise au niveau de la mise en scène dans le premier, notamment avec ce plan séquence filmé de plafond là, qui fait le tour de l'appartement. Je trouve qu'il est plus audacieux. Hein, adopter le point de vue d'une prostituée dans la société japonaise de l'époque, je trouve que c'est pas forcément si facile que ça. Surtout une escorte qui prend des initiatives, qui ne fait pas forcément ce qu'on lui dit, qui choisit ses clients, qui ne se laisse pas faire par la mère Macrel. Je trouve que ce film est... il forme un diptyque parfait. Donc c'est la maman et la putain. Je trouve que c'est très cohérent entre les deux, même si je pense qu'il y a des spectateurs qui vont être déçus, ils vont s'attendre à un autre thriller un peu horrifique, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. Même si il y a un petit peu de perversité, il y a du sentiment. C'est un film assez étrange qui ne va jamais là où on l'attend en fait. Et même parfois, bon, la fin, elle est vraiment quasiment onirique. Hein. On est un peu plus ou moins dans le fantastique. C'est une fin un peu en suggestion. Hein. Mais moi, je trouve que ça fait un diptyque très cohérent.
On rappelle que Door et Door to Tokyo Diary, donc c'est dans le même boîtier, c'est sorti chez Carlotta Film. Et donc, on vous le recommande chaudement parce que ça a été une belle découverte. Écoutez Culture Prohibée spécial thriller. On va filer chez ESC maintenant, pour parler d'un film qui s'appelle Les Chambres Rouges, un film de Pascal Plante, alors que ESC avait aussi sorti au cinéma, ESC a aussi sorti la BO. Bon, il y a un gros travail à soutenir, hein, parce que c'est un film à soutenir. C'est un film très particulier, hein, c'est un film assez singulier qui raconte l'histoire de deux jeunes femmes, hein, plus une que l'autre, mais quand même plutôt de deux jeunes femmes, Kelly Anne et Clémentine. Et qui se retrouvent tous les jours, ces deux jeunes femmes, elles se retrouvent au palais de justice de Montréal, elles vont assister au procès d'un, qui est très, très, très suivi, très médiatisé, au procès d'un serial killer. Elles sont littéralement obsédées, alors pour différentes raisons en fait. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est qui voit en lui un innocent, qui est une sorte de groupie en vérité. C'est un phénomène qui existe hein, de toute façon. Hein. On rappelle bon, certains cas de tueurs en série qui vont finir par nouer des relations avec des femmes, même avoir des enfants, alors qu'ils sont incarcérés. Et c'est vieux comme le monde, hein, je veux dire. On se rappelle de Ted Bundy, hein, voilà. Enfin, c'est pas d'aujourd'hui, quoi. Et de l'autre côté, il y a Kellyanne. Alors Kellyanne, elle, c'est très étrange. On sait pas vraiment ce qui la pousse. C'est un top modèle, c'est une femme très belle, qui gagne sa vie en faisant des shootings, hein, voilà, et qui est un mannequin reconnu dans son métier, hein, et qui prend des risques énormes pour, en fait, essayer de faire avouer des choses à ce tueur, provoquer quelque chose chez ce tueur pendant le procès. Ce tueur est complètement mutique pendant tout le procès, et elle va adopter une attitude que parfois on a du mal à suivre, et puis surtout, il y a une sorte de vidéos manquantes sur le dark web qu'elle recherche aussi et qui permettrait de définitivement incriminer cet homme, hein, ce tueur en série. Et évidemment, de toute façon, le film s'appelle Les Chambres Rouges, c'est ces fameuses Red Rooms, hein, où on pourrait voir hein, sur le dark web des gens réellement se faire tuer en direct avec des gens très riches qui payent derrière. Alors c'est un sujet qui a travaillé énormément la littérature de genre, la BD, on en a parlé avec Damien pour des BD, on en a parlé pour des livres de la collection Carnage, pour des BD du label 619 disponible chez Rue de Sèvres. On en a parlé, c'est un vrai sujet de culture populaire aujourd'hui, et qui a été en plus déjà très bien abordé au cinéma, au moins par deux films que je trouve excellents, c'est-à-dire qui sont différents, mais qui est le Thésis d'Alejandro Amenábar et le Vidéodrome de David Cronenberg. Hein. Même si là, on n'y parle pas de Dark Web, mais on y parle de Snuff Movie, c'est un sujet proche. Et là, mon cher Thomas, force est de reconnaître qu'en fait, Les Chambres Rouges, avec ce film, Pascal Plante ne va pas là où on s'attendait à ce qu'il aille. C'est-à-dire que c'est pas du tout le film qu'on attendait.
Alors Jérôme, tu cites Vidéodrome, justement, c'est de là que vient le terme chambre rouge, hein, parce que la pièce où sont torturés les gens dans Vidéodrome, c'est une chambre rouge. Et les chambres rouges qui sont à l'heure actuelle toujours un mythe, hein, comme les Snuff Movies, on ne sait pas si ça existe ou pas. Enfin, apparemment, ça n'existerait pas, vu que le fournisseur d'accès sur le Dark Web ne permettrait pas de faire des vidéos en direct. Et effectivement, les chambres rouges, le film de Pascal Plante, ne va pas du tout là où on pourrait l'attendre. Hein. On croit d'abord que c'est un film de procès. Ça commence comme un film de procès. Alors on est, moi, je suis captivé. J'adore les films de procès, donc ça commence super bien pour moi. Et finalement, ça va ailleurs. Et c'est un film... C'est encore une fois le portrait d'une jeune femme. Une jeune femme qui est... Enfin, on ne sait pas qui c'est au départ. D'ailleurs, on ne sait jamais qui c'est. Enfin, à la fin, on ne saura toujours pas qui elle est. On sait ce qu'elle fait. C'est une mannequin. Et on ne sait pas pourquoi elle fait ça, en fait. On ne sait pas pourquoi elle fait ce qu'elle fait durant le film. Alors, c'est une femme qui est plutôt douée. Elle est hacker. Et elle essaye, on ne sait pas pourquoi, de absolument incriminer ce bonhomme. Alors, on ne voit pas, il n'y a pas d'image choc, hein, il n'y a rien de tout ça. Pour moi aussi, le film, c'est un film qui, justement, parle de la société du spectacle à travers son métier de mannequin. Mais aussi, il y a une scène qui est, pour moi, représentative. Donc, il y a aussi cette façon, quand elle s'auto-détruit, elle, il y a aussi ce discours sur la destruction du corps, hein, qu'on ne voit pas, ce qui se passe dans les chambres rouges. Il y a ça, la destruction de vouloir détruire la beauté, parce que ce sont des belles jeunes femmes, des belles jeunes filles plutôt, qui sont violées, torturées, tuées par ce malade.
Oui, parce que c'est un tueur pédophile quand même. Enfin, il tue des très jeunes filles.
Des adolescentes de 12, 13, 14 ans.
C'est ça.
Et il y a une séquence qui, pour moi, est très parlante dans le film, c'est cette autre jeune femme qui apparaît, qu'on ne voit pas pendant tout le film, qui veut absolument défendre ce tueur en série, qui n'est pour l'instant accusé, hein, qui n'est pas reconnu coupable encore, vu que le procès est en cours, et qui appelle à une émission de télé-réalité où ils se foutent allègrement de la gueule du tueur. Enfin, ils rigolent de tout. Hein. Et elle appelle pour le défendre. Elle se fait humilier en direct. Donc pour moi, c'est aussi un film sur la société du spectacle. Ces chambres rouges, c'est du spectacle. Quoi que ça représente, mais ça, c'est du spectacle, du spectaculaire.
Au sens où l'a théorisé Guy Debord, c'est un film sur la société du spectacle. Ouais. Voilà, ça c'est clair. Si on reprend les écrits de Guy Debord, je suis d'accord.
C'est un film sur la société du spectacle, sur l'image qu'on donne de soi par rapport à la télévision, la photographie, ou même...
Et sur son rejet même. Parce que le personnage de Kellyanne, il est dans un rejet, parce qu'elle se saborde. C'est incroyable. C'est une autodestruction incroyable.
Ah oui, mais justement, et c'est là que le film, pour moi, reste mystérieux. Pourquoi elle fait ça? Qui est ce personnage? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle aide cette famille à faire son deuil? Parce que c'est ça qu'elle fait aussi. En même temps, elle est un peu perverse parce qu'elle laisse la vidéo.
Moi, j'ai une petite réserve sur le personnage de Clémentine. C'est-à-dire sur l'autre personnage qui est un personnage... Ça m'embête, en fait, parce que c'est un personnage un peu stéréotypé de groupie, de tueur en série. Le personnage est quand même stéréotypé, puis il y a un revirement de situation qui est assez attendu. Alors que... Effectivement, le personnage de Kellyanne, alors là, ce personnage, c'est un des personnages les plus, comment dire, les plus difficiles à déchiffrer que j'ai vu dans un film ces dernières années. Elle est fascinante, l'actrice est fascinante, c'est une beauté particulière, très longiligne, avec un visage très mystérieux. Cette actrice qui s'appelle donc Juliette Gariepy, cette actrice qui porte le film sur ses épaules, enfin pas que, parce qu'il y a une mise en scène assez extraordinaire, mais je veux dire, c'est là, pour moi, et le contrepoint ne se fait pas vraiment avec le personnage de Clémentine, qui est un personnage, on a l'impression qu'il a presque rajouté ce personnage pour un peu humaniser le personnage de Kellyanne, qui est un personnage insondable, en fait. Et c'est ça qui le rend... Elle est fascinante, en fait. Elle est littéralement fascinante. Et alors, c'est un film, moi, je trouve assez passionnant, hein, malgré mes quelques réserves donc, sur ce deuxième personnage féminin, et qui j'ai trouvé assez stimulant, en fait. C'est un des films les plus... qui reprend un peu aussi les codes de l'esthétique du giallo, d'ailleurs. Hein, c'est tout en étant un film dans la non-monstration. C'est l'inverse du thriller, des thrillers classiques. C'est vraiment un film très, très singulier que Les Chambres Rouges de Pascal Plante, donc disponible chez ESC et que nous vous conseillons vivement. Vous écoutez Culture Prohibée. Après le diptyque d'or disponible chez Carlotta Film et puis les chambres rouges disponibles chez ESC, on va faire un petit tour chez nos amis d'Artus Film pour quand même un petit événement. Hein. Voilà la sortie de la trilogie du vice de Sergio Martino. Alors, renommer la trilogie du vice a posteriori quand même, hein, puisque c'est Giallo. D'ailleurs, par exemple, le deuxième de la série, normalement, n'a pas vice dans son titre, mais on va y revenir. Alors, ce coffret, il réunit trois films, hein, donc « L'étrange vice de Madame Ward », « Toutes les couleurs du vice »,« Toutes les couleurs du vice » qui, en fait, s'appelle « Toutes les couleurs de l'obscurité » dans son titre original, ce qui est quand même très différent de « Toutes les couleurs du vice », mais on va dire que les gens qui l'ont exploité au cinéma avaient des bonnes idées marketing. En tout cas, ils s'imaginaient que c'est comme ça qu'ils allaient vendre le film. Et puis, le dernier de la trilogie, « Ton vice est une chambre close dont moi seul ai la clé », titre extraordinaire, et qui, en plus, est un film qui est, en tout cas en France, totalement inédit sur support DVD, Blu-ray, VHS, qui n'était jamais sorti. Donc, c'est un véritable événement, ce qui explique d'ailleurs sans doute le succès énorme de ce coffret de trois films. Alors, on va ensuite développer un peu plus sur ces trois films en compagnie d'Emmanuel Legagne, hein, qui dirige l'ouvrage qui accompagne ce coffret, un ouvrage qui s'appelle « Les vices cachés » de Sergio Martino, qui est coécrit avec Sébastien Guéraud et David Perrault. Mais on va d'abord parler de ces trois films. Ces trois films, quand même, qui sont tournés et qui sortent sur deux ans, hein, quand même. Hein, c'est dire la rapidité de Sergio Martino, qui est un artisan incroyablement doué et très efficace, hein, on peut le voir en regardant ses films. Alors là, assez simple, le premier film, démarre à Vienne, et puis il y a un avion qui se pose, Monsieur Ward revient avec sa femme, lui c'est un type de la bourgeoisie, c'est un type qui délaisse sa femme, qui passe son temps avec ses associés, c'est un homme d'affaires, voilà. Sa femme s'ennuie un peu, sa femme c'est Edwige Fenech, la sublime Edwige Fenech, on découvre très vite qu'Edwige Fenech a une relation sadomasochiste avec un type peu recommandable, mais un type qu'en même temps qui l'attirait énormément, et puis pendant ce temps-là, il y a toute une série de meurtres qui se déroule. Et ce qui va se passer, c'est que sa meilleure amie, Carole, va lui présenter un beau garçon qui s'appelle Georges. Et puis, petit à petit, elle va être victime d'un chantage. Sa meilleure amie va se faire tuer. Et ça va être un engrenage terrible, terrible pour cette femme qui va se retrouver la cible d'un tueur et surtout la cible de la gente masculine. Mais ça, on y reviendra. Alors, quand il fait ce film-là, Martino, c'est un peu un inconnu. Hein. Il a tourné quelques Mondo, il a tourné un western sympa, Arizona se déchaîne, mais on n'imagine pas qu'il est capable, qu'il a tant de maîtrise du cinéma et qu'il a un tel film sous la semelle. Et donc ça, c'est presque son premier film. Hein. Et c'est en fait l'une des plus belles réussites de l'année 71. Hein. À l'époque, dans le cinéma bis, c'est sa première réussite. C'est la première d'une longue carrière qui en comptera pléthore. Et Martino développe un sens de la mise en scène avec un esthétisme déjà assez ahurissant pour un réalisateur si jeune. Et il hisse tout de suite hein, son auteur au rang des plus grands maîtres du genre, hein, du giallo, hein, avec ce giallo stylisé où les scènes d'anthologie se succèdent, à commencer par les scènes oniriques là, dont je parlais à l'instant, qui sont d'une beauté picturale saisissante et d'un érotisme quand même assez torride. Et il y a même une séquence dans un parc qu'on va retrouver un peu chez Argento aussi, la même année, enfin le film sort en fin d'année, dans Quatre mouches de velours gris, pardon, mais il y a aussi plein de scènes marquantes. Il y a un meurtre sous une douche qui est assez impressionnant, où la caméra adopte le point de vue d'une victime durant sa chute. Il y a une attaque dans un parking souterrain qui est vraiment assez effrayante, où là, le réalisateur joue avec le hors-champ de manière assez judicieuse. Et puis, il y a une scène assez géniale, en fait, où un glaçon devient l'instrument nécessaire au meurtrier pour maquiller sa sale besogne en suicide. C'est vraiment une idée de génie, quoi. Voilà, c'est vraiment excellent. Et puis, il y a... Moi, j'aime bien quand le personnage d'Edwige Fenech arrive à la fin, là, une apparition quasi spectrale qu'on croirait sortie de la série de la femme scorpion des films japonais. Assez génial. Pour moi, c'est un excellent giallo. C'est un des tout meilleurs sortis cette année-là, dans la foulée des films d'Argento. Hein, le giallo se lance à l'époque. Le giallo, ça démarre en 64, mais c'est vraiment à partir de 70 que le succès commercial est là, grâce à L'Oiseau au plumage de cristal. C'est aussi pour ça que Martino, qui est complètement un artisan du cinéma bis, lui, il enchaîne les films, il en fait deux par an. En 72, il en fait deux, donc Toutes les couleurs du vice et Ton vice est une chambre close dont moi seul est la clé. Il enchaîne, il tourne à toute vitesse, il tourne très vite, pour son frère Luciano Martino, qui est producteur. Et il va enchaîner les films à une vitesse incroyable, et des films d'une qualité assez stupéfiante. Hein. Vous savez, pour les Italiens, on produit jusqu'à plus soif quand on tient un filon. On appelle ça un filone. Et vous savez, quand on tient un bon filon, on y va. Et là, à l'époque, c'est le giallo. Donc, Martino va enchaîner les giallos et il va nous faire, après, Toutes les couleurs du vice, qui en fait veut dire toutes les couleurs de... Enfin, le vrai titre, c'est Toutes les couleurs de l'obscurité, ce qui est beaucoup plus proche, en fait, de la destinée de son héroïne, qui est interprétée encore par Edwige Fenech. Elle s'appelle Jane, elle vient de perdre l'enfant qu'elle portait suite à un accident de voiture, et elle est assaillie de rêves effroyables qui lui évoquent aussi bien cette catastrophe qu'une autre tragédie qu'elle a vécue lorsqu'elle avait 5 ans. Et ces terribles songes se multiplient, à un point tel que sa libido en est affectée. Et donc Richard, son compagnon, il essaie de la soigner, il n'y parvient pas. Sa sœur Barbara l'envoie consulter un psychanalyste, le docteur Burton, sans succès. Et après avoir participé avec sa voisine Marie à une messe noire, elle retrouve du désir pour Richard. Et alors qu'elle se croit sortie d'affaire, sa vie, alors à ce moment-là, bascule totalement dans l'horreur. Alors c'est un film dans lequel Martino multiplie les prouesses visuelles les plus folles, hein. Il use du grand angle, il n'hésite pas lors des messes noires à basculer dans le psychédélisme le plus débridé en mélangeant diverses tonalités picturales. Et lors des scènes oniriques, la couleur prépondérante est le noir, car les cauchemars de Jane sont particulièrement horribles. Et lors des scènes nocturnes, le ton vire au bleu électrique, parce que ça renvoie en fait au regard d'un de ses tortionnaires. Il y a un jeu avec les couleurs. À un moment, même, elle est agressée, elle voit son intérieur scindé en deux, puisqu'elle est elle a une sorte de fragmentation mentale, hein, elle est en train de sombrer dans la folie. Et donc l'écran fait une sorte de split screen où à gauche la pièce est plongée dans un rouge carmin, et à droite on est dans la couleur réelle, des couleurs naturalistes, et on est vraiment dans le cerveau de quelqu'un dont la raison vacille. Et ces procédés de mise en scène
désoriente volontairement le spectateur, qui est perdu clairement entre rêve et réalité. Alors en plus, Jane, elle a des visions, certaines sont prémonitoires, mais pas d'autres. Et parfois, il y a même des flashbacks dans les flashbacks, des visions dans les visions. Donc, c'est un film d'une grande ambition scénaristique. Et puis, c'est un film aussi où, évidemment, Martineau, il cite Polanski et en particulier son Rosemary's Baby. Néanmoins, moi, je m'inscris en faux dans ceux qui disent que c'est une ressucée, Rosemary's Baby. Parce que le film l'a influencé, ça, c'est indéniable, mais... Toutes les couleurs du vice s'inscrit complètement en fait dans la grande tradition du giallo. Il y a une intrigue de machination typique. Voilà, on est complètement dans la machination que Martineau en fait hybride, mélange avec une esthétique 70s qui est une esthétique presque psychédélique. Et en fait, ce qui est étonnant avec Martineau, c'est qu'à chaque giallo, alors son premier était un devoir appliqué, très réussi, hein, on vient d'en parler. Celui-ci, il apporte autre chose, parce qu'il confronte le naturalisme au psychédélisme. Hein, l'intro est là pour le rappeler. Et le suivant, Ton chambre vise, dont moi seul est la clé, fait que Martineau là, va se confronter directement, lui, au cinéma d'horreur gothique, qui a longtemps été ce qui a fait vivre le cinéma fantastique italien, c'est le gothique. Et là, il s'empare du gothique et il y instaure un giallo. Il nous met face à un écrivain déchu, la vieille bourgeoisie italienne qui vit dans une superbe villa qui s'appelle Oliviero et qui vit en Vénétie. Alors il a hérité, hein, parce que il est au fond du trou. Il a hérité de sa mère, la comtesse de Rouvigny. Et cette dernière lui a aussi légué un chat noir, parce que ce film est une adaptation en fait détournée du chat noir. Mais alors, vraiment lointaine, hein, d'Edgar Allan Poe. Et ce chat noir qui s'appelle Satan, d'ailleurs, qui est presque à l'origine une sorte de running gag, parce que Martineau, il est increvable, en fait, dans le film, parce qu'il va essayer de le tuer je ne sais combien de fois, ce chat. Il revient toujours. C'est une sorte de running gag volontaire, hein, de la part de Martineau, qui a beaucoup d'humour. Et c'est un sale type, Oliviero. C'est la vieille Italie impérialiste, colonialiste, fasciste. Et il humilie son épouse, Irina. Il humilie sa servante, Brenda, qui est une femme noire, dont il dit heureusement qu'il nous reste ça des colonies, en objetisant littéralement cette servante, cette femme qui lui sert de bonne à tout faire, mais y compris sexuelle. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On est dans un giallo. Hein. Alors qu'il trompe sa femme avec une de ses anciennes étudiantes, celle-ci est retrouvée la gorge tranchée. Et évidemment, les soupçons vont se porter sur lui. Alors, le film a vraiment en son centre le thème de la perversion. Hein. Tous les personnages principaux ont une sexualité assez débridée. Et tous sont des vices cachés. D'ailleurs, c'est un très bon titre choisi pour le livret, là, Les vices cachés de Sergio Martino. Oliviero est campé par Luigi Pistilli, qui est extraordinaire, en salopard, en fumier. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Hein, une sorte de vomi, de résurgence de ce qu'a été la noblesse italienne. Et puis, pour une fois, non pas en victime, mais en méchante, il y a Edwige Fenech, qui est assez extraordinaire. C'est une sorte de pendant féminin au personnage de Terence Stamp dans Théorème de Pasolini. Voilà. Bien sûr, on n'est pas chez Pasolini, on est dans du cinéma de genre, du cinéma bis. Mais c'est le personnage qui amène la perversion, qui pervertit tout le monde dans le château, tout ça. C'est hyper intéressant. Enfin bref, pareil, voilà, j'ai juste envie de vous dire que ce giallo très sensuel avec la très belle photographie de Giancarlo Ferrando, très belle musique de Bruno Nicolai comme tous les films de Martineau, est indispensable. Voilà, faut l'avoir vu. Tous les amateurs se doivent de voir. Ce sont les trois films de cette trilogie qui ont tous une mise en scène virtuose. Alors dans celui-ci, il y a une caméra très mobile. Il expérimente aussi pas mal de choses, Martineau. Enfin bref, vous l'avez compris. Je vous conseille bigrement ces trois films. Alors ces trois films qui sont accompagnés en plus d'entretiens avec Martineau, George Hilton, Ernesto Gastaldi, le scénariste, George Hilton, l'acteur, hein, et d'un livret dirigé par Emmanuel Legagne, Les vices cachés, donc de Sergio Martineau. Bonjour Emmanuel Legagne.
Bonjour.
Alors nous sommes donc en compagnie d'Emmanuel Le Gagne qui dirige l'ouvrage de presque 100 pages, hein, qui accompagne cette trilogie du vice. La première partie du livret, hein, s'intitule un artisan modèle. On peut effectivement dire que Sergio Martino, c'est un peu le summum de l'artisanat du cinéma, cinéma bis italien en vérité.
Oui. Et puis quand on regarde déjà, parce que alors il est plus jeune, je dirais, que certains cinéastes bis comme on va dire Umberto Lenzi ou Domenico Paola, enfin ou Margheriti. Donc déjà Sergio Martino, il commence à réaliser en 70. Donc il n'a pas, il n'est pas passé, on va dire, par la case péplum ou épouvante gothique pure, on va dire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des genres qu'il n'a pas traités. Il débute par le western, puis il va faire des mondos aussi à peu près au même moment. Et ce qu'on peut dire, c'est que il a toujours donné, je dirais, le meilleur de lui-même en abordant à peu près tous les genres. Même si, bon, après, personnellement, je pense que là où il a particulièrement innové, surtout sur un plan, je dirais, de mise en scène formelle, c'est avec le giallo et un petit peu avec les poliziotesco.
Je partage. Hein. Bon, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Martino, de passer une journée et demie avec lui. C'est un de mes meilleurs souvenirs de cinéphile, parce qu'en plus, il est assez modeste. Hein, et moi, je partage ce qui est développé dans l'ouvrage, là, hein, dans ce petit ouvrage, qui s'appelle Les vices cachés de Sergio Martino. En fait, effectivement, chez Martino, là où il va le mieux s'exprimer, c'est dans le giallo, parce que dans le giallo, c'est un genre de... vraiment un genre de la mise en scène. Donc il va être obligé de déployer plein d'artifices. C'est bien dit dans le livret d'ailleurs, hein, parce que dans le livret, effectivement, c'est comédie et tout. On peut dire que c'est presque platement réalisé, même s'il a un bon sens du rythme. D'ailleurs, il nous disait que son film préféré, c'était Cornetti à la crema, Croissant à la crème. Hein, lui, c'est son film qu'il préfère dans ce qu'il a fait. Hein.
Mais parce qu'il aime les acteurs. Mais il le dit d'ailleurs dans une interview où quand il fait une comédie, il pose sa caméra, puis il laisse jouer les comédiens. C'est lui-même qui le dit. Je pense qu'il a là-dessus, je ne lui donnerai pas complètement raison, parce que finalement, la comédie, ça demande aussi de la mise en scène et une certaine virtuosité par rapport au rythme. Et par contre, dans une interview, il racontait aussi que quand il doit faire les giallo, c'est là où il va innover le plus. Il va tenter, en fait, d'expérimenter des cadrages insolites avec sa caméra, des effets et plein d'effets de mise en scène, hein, que ce soit les ralentis, enfin voilà. Et je pense que Martino était très conscient de ça, en fait.
Bah, d'ailleurs, c'est un des meilleurs artisans du giallo, en vérité, parce qu'on parle tout. Pour moi, il y a Argento, il y a Bava, et puis après, pour moi, il y a Martino et Dallamano qui sont un peu d'un même niveau, c'est-à-dire des types, on ne sait pas vraiment où ils se positionnent. C'est bien expliqué d'ailleurs dans le livret, hein, on parle de... C'est écrit des giallo entre misandrie et misogynie, parce qu'en en fin de compte, c'est quand même les femmes qui gagnent chez Martino. Et les hommes, il en trace un portrait assez déplorable aussi. C'est assez étrange, cette manière de regarder le monde qu'il a.
Et je dirais même très toxique, si on prend le premier, hein, de la trilogie du vice, L'étrange vie de Mi-Soir, c'est quand même, c'est un peu c'est un peu l'agneau apeuré, du Chenet, qui est quand même entouré d'hommes, qui sont, alors qui représentent tous une facette un peu négative du masculin finalement. Ça va parcourir à peu près, je dirais, la plupart des giallo de Martino, ça. Et c'est vrai qu'il y a peut-être aussi une forme de, je dirais, la misogynie, c'est toujours compliqué. Moi, je trouve qu'il y a une certaine misanthropie aussi chez Martino, avec quand même des personnages qui parviennent à être attachants.
Oui, c'est un homme de son époque aussi. Hein. Il faut pas toujours tout suranalyser, mais ce qui est clair,
non.
Voilà, ce qui est clair, c'est que chez Martino, c'est rappelé, hein, dans le. Alors nous, il nous avait parlé de son attachement à la peinture de Chirico, et je trouve que c'est assez intéressant d'ailleurs ce rapprochement, parce que la peinture de Chirico, elle a multiples facettes, c'est-à-dire qu'elle a pu être très en avance sur son temps et aussi très classique. C'est étonnant cette fascination qu'il a pour Chirico et c'est bien mis dans le livret, hein. L'onirisme, l'architecture du luxe, c'est des choses qu'il utilise de manière assez merveilleuse, à tel point d'ailleurs qu'il est le seul, en fait, avec Mario Bava, à avoir prévu un peu le slasher. C'est-à-dire qu'il va porter, alors peut-être que c'est comme tu le disais à l'instant, sa grande misanthropie, mais il va porter le genre vers quelque chose qui tient... Alors Bava ira plus loin dans l'abstraction, parce qu'il n'y a quasiment pas de récit dans La Baie sanglante, mais avec Torso, son ultime grand giallo, il va jusqu'à l'amener aux portes du slasher. C'est quand même quelqu'un qui a exploité le giallo dans le bon sens du terme jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il en a perçu toutes les qualités et puis il en a fait autre chose.
Et puis surtout, si on parle de Torso, hein, qui n'est pas dans la trilogie, il change même la mise en scène, qui devient beaucoup plus froide, clinique, les meurtres sont beaucoup plus violents que dans ses précédents films. Et avec une intrigue, c'est vrai, qui est beaucoup plus simple même. Hein. C'est-à-dire, c'est quand même une série de meurtres. Parce que si on reprend, par exemple, L'étrange vie de Miss Worth, c'est vraiment le giallo au carré, avec un récit qui est quand même très sophistiqué, qui emprunte autant au Woody Night qu'au film de Machination. Enfin, moi, je trouve toujours que les scénarios, notamment de ces trois films, sont remarquablement bien écrits, en fait.
D'ailleurs, tu parlais de L'étrange vice de Madame Ward. Il y a une scène... Bon, Martino nous a dit qu'il pensait que Argento l'avait un peu copié. Voilà. Bon, il nous a dit j'ai copié des trucs chez Argento, mais il a aussi pris des trucs chez moi. Et effectivement, il y a une scène de meurtre dans un parc. On ne peut pas penser à Quatre mouches de velours gris qui sort après. Alors, voilà.
Évidemment, mais en même temps, cette scène, il s'inspire ouvertement d'une séquence qui est dans le blow-up d'Antonioni. Et Dario Argento aussi, il s'inspire de cette séquence qui est dans le parc, où t'as David Hemmings qui est tout seul aussi à un moment sur un banc. Enfin voilà, il y a une scène qui est très similaire. Et tous les deux ont refait la même séquence. Après peut-être que Dario Argento, il a vu aussi le film de Martino et il s'en est inspiré. C'est possible.
Oui, après ça, je ne sais pas. Moi, je considère Argento comme un génie de toute façon. Donc, et puis s'il va prendre ce qu'il y a de bon chez les autres, il a raison hein, quelque part. Il y a aussi alors. Dans ce coffret, il y a aussi Toutes les couleurs du vice. Alors, Toutes les couleurs du vice, qui est un film dont Martino nous disait qu'il n'avait pas été bien compris, puisque la question de l'onirisme est très présente et les songes n'ont pas toujours été bien compris par le public à l'époque, puisque c'est quand même un film très ambitieux. C'est-à-dire qu'il y a... Il y a des flashbacks dans les flashbacks, il y a des séquences oniriques qui annoncent ce qui va se passer, il y a des séquences oniriques qui se rattachent au passé, et puis il y a cette utilisation des couleurs, des filtres de couleurs très particulières et qui symbolisent l'état d'esprit d'Edwige Fenech, qui est quand même c'est un film très noir, parce que c'est un film qui ne trouve pas d'issue positive, où elle est quand même atteinte de maladie mentale. C'est assez impressionnant, en fin de compte, comme film, Toutes les couleurs du vice. Le titre français, d'ailleurs, retranscrit pas vraiment le vrai titre.
Oui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait la jonction de la trilogie du vice. En fait, c'est Toutes les couleurs du sombre ou quelque chose comme ça. Il faudrait le traduire, en fait. Moi, je trouve que c'est un film qui est remarquablement mis en scène. Si on le regarde bien, il y a un côté très baroque dans les scènes de rêve, hein, notamment une scène d'ouverture. Et ensuite, dans le réel, je trouve qu'il y a, lorsqu'on sort de ces scènes de rêve ou de la fameuse séquence avec la secte, en fait, hein, où là, on va dire que Martino déploie vraiment une mise en scène très sophistiquée, assez folle. Mais sinon, je trouve qu'il a rarement été aussi sobre d'un point de vue de la réalisation. Il y a quelque chose qui, moi, me fait penser à une mise en scène proche des films de Polanski, mais notamment de Rosemary Baby, qui est cité, hein, qui est ouvertement, je pense, l'influence majeure du film. C'est vraiment un film où il n'expérimente pas tant que ça si on enlève ses séquences un peu oniriques, en fait. Mais par contre, c'est très maîtrisé, et notamment, je trouve qu'il y a un plan d'ouverture en plan fixe qui est vraiment magnifique.
Ouais, on est d'accord. En plus, il joue sur les sons, la diégèse. Enfin, Martino, c'est pas un auteur au sens où il va développer des scénarios très personnels, tout ça. Par contre, d'un point de vue de l'esthétisme, d'un point de vue de la mise en scène pure, il est brillant, Martino, je crois qu'il faut le dire.
Oui, et puis ça se confirme même dans le troisième. Alors, en fait, il a l'intelligence de s'adapter au scénario, en fait. C'est-à-dire que je crois qu'il se pose pas en auteur, hein, mais il se pose quand même les bonnes questions. À chaque fois, il a un récit. Qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais essayer de retranscrire l'atmosphère? Et dans le troisième, dans le comment il s'appelle, toute
ton vie, c'est une chambre close, dont moi seul est la clé.
Il se dit, il abandonne le scope déjà. Il le fait en 1,85. Et pour moi, comme c'est un film pratiquement en huis clos, quoi, qui est en grande partie, pour retrouver un peu une atmosphère gothique, un peu plus putride, un peu sale, je trouve qu'il a fait un bon choix de format et puis de mise en scène aussi, hein, qui est une mise en scène qui est plus, que je trouve plus âpre que ce que par rapport aux deux précédents en fait.
Écoutez Emmanuel Legagne, co-auteur de Les Vices cachés de Sergio Martino, un ouvrage co-écrit avec Sébastien Guéraud et David Perrault et disponible chez Artus Film, au micro de Culture Brouillard.
C'est une adaptation, en fait, on va dire, officieuse du Chat Noir, en fait, de Poe. Mais il ne reprend, en fait, que... il reprend, on va dire, la thématique. Après, le film est très différent. Je trouve aussi que des trois, c'est peut-être le plus misanthrope.
Le personnage de Luigi Pistilli, le personnage masculin, il est horrible, horrible.
Oui, c'est l'aristocrate décadent qui représente le vieux monde. Et là, c'est très symptomatique de l'idéologie quelque part de Martino, qui est à la fois un progressiste, parce que ces gens qui représentent un peu la bourgeoisie, un peu décati, il ne les aime pas, mais il est aussi hyper critique dans le film avec la jeunesse un peu hippie qui est un peu décadente aussi. En fait, il filme les deux faces d'une décadence qu'il n'apprécie pas en fait.
Après, le film a un vrai assez intéressant. Alors, il y a beaucoup de différents scénaristes qui se sont succédés sur le film. Hein, oui, Luciano Martino, Saoro Scavolini, Gastaldi, Bolzoni.
C'est qu'il n'est pas seul. Hein. Ouais, Gastaldi a quand même scénarisé les trois. Hein.
Et puis, il nous disait qu'il avait aussi retravaillé les scénarios de tous ses films sans jamais être crédité, hein, quand on l'avait rencontré, comme beaucoup de réalisateurs. Et il y a même un moment, moi, je me rappelle... alors, c'est marrant parce que c'est tout le paradoxe Martino. C'est-à-dire qu'il y a une scène, clairement... ou anticolonialiste, c'est-à-dire que quand ce vieil aristocrate, il attrape sa servante noire et puis qu'il lui dit, je ne sais plus ce qu'il dit exactement, mais il dit, bon, on a perdu nos colonies, mais heureusement, on a gardé des bonnes servantes je ne sais plus s'il a des nudes à ce moment-là ou quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, il y a quand même le cliché de cette servante noire qui est aussi une sorte de, comment dire... qui a des pulsions sexuelles qu'elle ne peut maîtriser et tout, c'est aussi quelque part le fantasme de la...
Oui, il y a quelque chose d'exotique, un fantasme un peu exotique comme ça. Mais si on regarde, il est pratiquement l'un des seuls à mettre un personnage noir parmi les giallos. Moi, j'ai rarement vu de personnage étranger, en fait, dans le cinéma italien. Alors, ça vient du fait qu'il y en a très peu en Italie, à cette période, dans les années 70. Mais je pense que s'il prend ce personnage d'une noire, comme dans Torso, c'est aussi pour avoir une facture un peu anglo-saxonne. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, au début des années 70.
Ouais, après, on voyait beaucoup Beryl Cunningham, par exemple, ou Carla Brett, qu'on voyait... qu'on voyait dans les giallos, Sean Robinson aussi dans Exorcisme tragique. Enfin, il y avait toujours, mais c'était toujours un peu un personnage stéréotypé. Et là, c'est effectivement le seul film
où il est fait référence aux colonies, en fait. C'est dans les autres films, il n'est pas fait référence. Au final, Emmanuel Le Gagne, hein, qui donc, dirige hein, l'ouvrage qui accompagne ce coffret de la trilogie du vice, hein, cet ouvrage de presque 100 pages qui s'appelle « Les vices cachés de Sergio Martino » qui est donc disponible avec la trilogie du vice éditée chez Artus Film. Mais peut-être au moment où vous écouterez l'émission, le titre sera déjà épuisé parce que c'est un succès dingue.
Comme des petits pains,
ouais, c'est impressionnant. Ouais. Et qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette trilogie du vice ? Comment tu la définirais ? Comment tu la... Qu'est-ce que vraiment, pour toi, quand on dit trilogie du vice de Martino, qu'est-ce que ça t'évoque immédiatement ? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit ?
Ah bah, immédiatement, c'est Eddie Fennec qui me vient à l'esprit, parce que c'est le fil conducteur des trois films. On sent vraiment un cinéaste qui aime particulièrement son actrice. C'est-à-dire que toute Alors, elle a un personnage moins positif dans le 3, certes, dans le 3e, hein, mais moi, c'est Dichonnet qui me vient à l'esprit. Et puis ensuite, c'est vraiment, je dirais, les giallos peut-être les plus représentatifs de leur époque. Peut-être plus encore qu'Argento, qui a peut-être un peu intellectualisé le genre des L'oiseau au plumage de cristal. Mais je pense que Sergio Martino, c'est vraiment la rencontre entre, je dirais, le roman photo et le thriller hitchcockien de façon quasi parfaite, en fait. Et c'est vraiment, moi, le giallo carré. Hein. Quand je pense à Martino, je pense à giallo aujourd'hui.
Argento, d'ailleurs, c'est plus une rockstar, en vérité. C'est vrai que Martino, c'est un artisan, lui. Il ne se revendique pas d'être un auteur, tu le disais tout à l'heure. D'ailleurs, c'est rigolo que tu fasses référence au roman photo, parce que pendant longtemps, le dernier film de la trilogie, hein, c'est-à-dire
ton roman photo, ouais.
Voilà, ton vice est une chambre close dont moi seul est la clé. J'ai toujours moi le roman photo. C'était la seule manière de pouvoir voir ce film qu'on avait les spectateurs français, parce qu'il était totalement introuvable avant qu'à l'arrivée du net et tout ça, parce qu'on commence à être des vieux maintenant, hein, mais c'est vrai qu'il était introuvable.
Ce qui est un paradoxe, parce que c'est celui qui a une facture de mise en scène le moins roman photo des trois. L'aspect roman photo, il est très frappant, je trouve, dans Les Transvices de Missoir, qui convoque vraiment une esthétique de par le décor urbain. Et puis même les relations entre les personnages. Le rapport entre George Hilton et Edwige Fennec, c'est vraiment un rapport de roman photo, en fait.
Et d'ailleurs, tu parles d'Edwige Fennec qui effectivement est le fil conducteur de ces trois films, mais Edwige Fennec en plus, je trouve que chez Martino, parce que Edwige Fennec, elle est souvent caricaturée en jolie fille qui montre ses formes avantageuses dans des comédies, des sexy comédies, et puis elle va minauder, et puis voilà. Chez Martino, on découvre une actrice, c'est-à-dire, alors, bien sûr, c'est pas la plus grande actrice de tous les temps, mais c'est vraiment une bonne actrice, très bien dirigée par Martino. Moi, je la trouve vraiment impressionnante dans L'étrange vice de Madame Ward, et dans le troisième aussi, enfin dans les trois d'ailleurs, hein, et dans le troisième, surtout avec ce petit côté vicelard, hein, c'est spécial dans le troisième, on parle d'inceste, on parle de tout ça.
Donc, surtout qu'elle n'a que 22 ans à ce moment-là, hein. Je veux dire, elle est très jeune en fait, hein. Et je trouve qu'elle a un mélange d'innocence et de quelque chose d'un peu plus, une perversité un peu secrète en fait. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je trouve que Martino, il lui a offert de beaux personnages. Et ce qui n'était pas toujours le cas dans ce genre, en fait. Hein.
On est d'accord. Bah, écoute, on te remercie, Emmanuel Le Gagne, dont on rappelle que donc, tu diriges l'ouvrage qui accompagne le coffret de la trilogie du vice paru chez Artus Film, un ouvrage qui s'appelle « Les vices cachés de Sergio Martino », qui est coécrit donc avec Sébastien Guéraud et David Perrault. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut.
Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Domé, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine. Thank you.